Il est 13h sur Radio Ndekeluka et c'est l'heure de suivre le journal, une présentation de Eda Lotindiko. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdia Niaboudé, bonjour à toutes et à tous. Des plaintes de victimes au début de ce journal, celles de la LRA dénoncent leur non-inclusion dans le processus de rapatriement des ex-combattants de la LRA vers l'Ouganda. Cependant, les victimes des crises militaro-politiques en RCA demandent la prise en compte de leurs attentes par la CVJRR. Assemblée générale des institutions de Bretton Woods au Maroc, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international mettent le projecteur sur les pays au sud du Sahara dans un contexte de lutte contre le changement climatique. L'inspection académique de la Vakaga manque d'enseignants qualifiés. L'inspecteur appelle les enseignants affectés dans la région à prendre service. Football, démarrage cet après-midi de la troisième journée des éliminatoires dans la Sous-Ligue de Bégoua sur le terrain de Kossi. Au programme Racing Club de Bégoua, Nouvel Horizon, Puy Fini Tongolo affronte Espérance de Nzako.
Et là, nous ouvrons ce journal avec la réaction de l'Association des victimes centrafricaines de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Elle s'étonne du rapatriement de certains combattants de ce groupe armé dans leurs pays respectifs par le gouvernement centrafricain.
L'association déplore le fait qu'elle n'ait pas été consultée par les autorités dans ce processus de rapatriement. L'Organisation des victimes de la LRA, qui réclame toujours justice, demande au gouvernement et plus particulièrement au ministère chargé du désarmement de l'associer dans les prochaines démarches. Aubin Koto-Kwenze, président national de l'AVRAC, au micro de Chris Roy Jordan Badengbi.
Le rapatriement des ex-combattants dans la ville de Umbomu est salutaire parce que ce sont des sanguinaires et ils ne peuvent pas vivre ensemble avec la population. Mais avant qu'on les rapatrie, les victimes devraient être informées et nous ne sommes pas informés. Et c'est une surprise pour nous qu'on s'occupe des sanguinaires et oublie les victimes. Après leur rapatriement, nous demandons au gouvernement centrafricain de faire la réinsertion des victimes centrafricaines. Et il faut associer l'association des victimes de la LRA dans toutes les démarches qui concerne la situation des victimes centrafricaines de la LRA. Vous convenez avec moi que Dominique Ongwen était capté sur le sol centrafricain, mais l'État ne nous a pas accompagnés pour aller saisir la Cour pénale internationale en faveur des victimes centrafricaines. Et aujourd'hui, on continue toujours à se battre qu'il faut que l'État aille saisir la Cour pénale internationale contre Joseph Kony et ses éléments. Même les sanguinaires qui sont rapatriés, on devrait les juger sur notre sol. C'est ça qui a fait vraiment la désolation aux victimes centrafricaines de la LRA.
Une autre réaction, c'est des associations des victimes des crises militaro-politiques en RCA. Ces victimes demandent la prise en compte de leurs attentes par la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, CVJRR.
C'était lors d'une rencontre hier entre les deux parties à Bangui. Selon les victimes, la CVJRR a tourné au rang pendant ces deux premières années. Christophe Jordan Badengbi.
C'est le collectif des organisations des victimes de la RCA qui a initié cette rencontre avec la CVJRR pour savoir un peu plus sur ses missions et les avancées. Face au commissaire de la CVJRR, les leaders des différentes associations s'interrogent sur la prise en compte des victimes dans la mission de cet instrument de justice transitionnelle. La question de la difficile collaboration entre les deux parties a aussi été soulevée lors des échanges. Hervé Séverin Lidamant, président du collectif des associations des victimes.
Les victimes attendent à ce que la CVJR les consulte, documente les faits. C'est l'impression des victimes que nous avons recueillies sur le terrain. Les victimes ont constaté que la CVJR n'a rien fait. Ils sont là, ils attendent. Les témoins sont en train de disparaître, alors qu'il y a certaines personnes là qui sont des témoins potentiels. Mais on est en train de les perdre. Donc les gens sont mécontents. Et nous sommes en train de présenter ça, ce résultat-là, devant la commission.
Du côté de la CVJRR, l'heure est à l'apaisement. Face aux multiples interrogations des victimes, les commissaires tentent de rassurer Serge Hubert Bangui, premier vice-président de la CVJRR.
C'est une commission qui est toute neuve, donc pour sa mise en marche, il faudra qu'elle consolide ses bases sur le plan légal, sur le plan logistique, sur le plan stratégique. Donc il y a tous ces outils qu'il faut consolider pour mettre en mouvement la commission. Aujourd'hui, je peux vous garantir que les 85% de ce dont nous avons besoin sont déjà disponibles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons, avec beaucoup de liberté et d'assurance, nous rapprocher de la plateforme des organisations des victimes pour commencer les premières démarches de partage de documentation et d'informations.
Cette rencontre des leaders des associations des victimes de la RCA va se poursuivre aujourd'hui avec la Cour pénale spéciale qui est l'autre instrument de la justice transitionnelle en République centrafricaine.
Le journal se poursuit sur Adjoundé Keloka. Parlons de l'ouverture hier au Maroc de l'Assemblée générale des institutions de Bretton Woods.
Une première depuis 1945 après la mise en place de ces institutions, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette rencontre intervient dans un contexte de réadaptation aux phénomènes climatiques et de l'épineuse problématique de croissance des pays du Sud-Sahara. Les enjeux de cette Assemblée générale avec vous, Jean-Fernand Kouina.
L'Assemblée générale s'est ouverte dans un contexte de ralentissement économique de l'Afrique après la crise de Covid-19. Cette Assemblée générale se veut réformatrice avec une ouverture aux pays africains pour avoir plus de représentativité au sein des institutions de Bretton Woods. Dans des deux jeux, le représentant de la Banque mondiale Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, se veut optimiste quant à l'investissement de la Banque mondiale dans les secteurs prioritaires. Parmi ces secteurs, l'éducation et l'électrification du continent. Ces deux secteurs sont d'autant mieux révélateurs des problèmes centrafricains pour lesquels la Banque mondiale et le gouvernement s'emploient pour trouver une solution durable. Pour preuve, la Banque mondiale a exhorté courant 2021-2022 le gouvernement centrafricain à faire des investissements massifs dans le capital humain, notamment l'éducation. De même, la Banque mondiale, par souci de cohérence, a financé le projet de construction de la centrale solaire de Danzy, ce qui réduirait sensiblement le délestage qui freine l'élan de la croissance économique centrafricaine. Le Mauritanien Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, est attendu à Bangui fin octobre, début novembre pour l'inauguration du centre solaire de Danzy. Il faut donc noter que cette Assemblée générale ne s'est pas faite sans critique majeure. C'est le cas notamment de l'octroi de dons à des taux préférentiels sans tenir compte des valeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie. Face à cette critique, la Banque mondiale s'est montrée optimiste et prouve sa bonne volonté à aller vers la résolution de problèmes en s'attaquant aux problèmes de l'environnement comme vecteur de croissance. Cette Assemblée générale s'ouvre dans un contexte où beaucoup de pays africains s'orientent de plus en plus vers les pays des BRICS.
Jean-Fernand Kouina, merci. De son côté, le Fonds monétaire international a aussi ouvert des discussions avec les autorités centrafricaines. Le pays pourrait bénéficier d'un programme élargi de crédit.
Et à Cap sur Berberati dans la Mambere KDI, où la ville perd de plus en plus sa réputation de flamboyante.
De hautes herbes et des fossés sont visibles dans la ville, empêchant la libre circulation des biens et des personnes. Cette situation est à l'origine de nombreux accidents avec mort d'homme. La population lance un cri de détresse aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour une action pouvant éviter le pire. On en parle avec notre correspondant à Berberati, Fred Ludovic Nambobuna.
Berberati n'est plus le symbole d'une ville poumon économique comme dans le passé. Des grands fossés sont visibles dans la ville, à cela s'ajoutent de hautes herbes. La mairie locale est dépourvue de moyens appropriés pour faire face aux problèmes. Piero Bessogo, l'un des chefs de groupe de la ville, s'alarme.
Au niveau du quartier Baba Salao, il y a des cas d'accidents de moto. Au pont Barakuda, une personne est décédée suite à un accident. Pour le moment, la population du 3e arrondissement a construit une passerelle, mais qui n'apporte pas totalement une solution au problème. Nous sollicitons une aide pour sauver la population.
Le constat révèle que ces ravins ont séparé les différents quartiers de Berberati. La libre circulation des biens et des personnes devient compliquée dans ce climat. Ricobert Bicou, directeur régional de l'environnement et du développement durable, déplore.
Pour passer d'un quartier à l'autre, c'est très difficile. Il faut contourner longtemps avant d'avoir accès à ça. Ça, c'est déjà le problème d'accès qui est devenu difficile dans certains quartiers. Deuxièmement, il y a un problème d'insécurité. Nos enfants qui vont à l'école, qui sont des petits-enfants, s'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans ces ravins. La mort peut s'en suivre. Ensuite, même les grandes personnes qui se promènent la nuit, qui ne connaissent pas bien le quartier, ils sont exposés à des risques, ils peuvent tomber dans ces ravins et mourir.
Faute de moyens adéquats pour lutter contre ce phénomène, la municipalité de Berberati a déjà initié une sensibilisation auprès des ménages pour assainir la ville. Marcel Boutouli, deuxième adjoint au maire de la ville de Berberati.
Vraiment, les ravins sont en train de menacer la ville de Berberati. Cela devait être la responsabilité de la mairie. Mais vu vraiment l'ampleur, les ravins qui ont à peu près 10 à 15 mètres de profondeur avec une largeur de plus de 5 mètres, ça dépasse vraiment la capacité de la mairie. C'est pour cela que la mairie est en train de demander aux partenaires au développement de trouver un palliatif pour ces ravins.
La ville de Berberati connaît un sérieux problème d'urbanisation. Le manque des canaux d'évacuation d'eau crée des érosions dans la localité. Un projet de Banque mondiale projette résoudre le problème à l'avenir. En attendant, la population demande une solution d'urgence du gouvernement pour lui offrir un climat de vie paisible. Berberati, Fred Ludovic Nambobona, Radio Ndekeluka.
Dans la Vakaga, l'inspecteur d'académie de cette préfecture, Lucien Gangba, se plaint de l'insuffisance d'enseignants qualifiés dans la région.
Tout comme à Birao et d'autres localités, l'autorité éducative fait appel aux maîtres parents pour dispenser les cours aux élèves qui ont repris le chemin de l'école lundi dernier. Selon Lucien Gangba, certains enseignants affectés dans la Vakaga restent toujours à Bangui. Il est au micro de notre correspondant Ramadan Abdelkader.
Nous avons des enseignants, mais la majorité sont des maîtres parents. Sur un effectif de 185, nous n'avons que 5 titulaires. On les a répartis dans les différentes écoles. Dans les établissements secondaires, nous n'avons que des personnels administratifs. Les personnels pédagogiques n'existent pas à Birao. L'enseignement qui est donné par un titulaire, nous allons avoir un bon rendement à la fin de l'année. Mais si c'est un enseignant parent, à ce niveau, il y aura des difficultés. Et à Gordil, nous n'avons que le staff, le principal, censeur, intendant et puis surveillant. Mais les enseignants, ils ne sont pas là. Du coup, on ne peut pas ériger le CS de Gordil et le CS de Tiringolo en lycée. Et là, les cours ont démarré. Certains enseignants sont restés encore à Bangui. C'est difficile que les véhicules arrivent chez nous ici. Mais pour l'instant, c'est la MINUSCA qui procède au redéploiement des enseignants. Il faut des procédures. Et tout ça, ça joue sur le calendrier scolaire.
Actualité à l'international, guerre Israël-Hamas, le bilan continue de s'alourdir, des dizaines de morts encore hier nuit à Gaza.
Cinquième jour d'hostilité aujourd'hui, dans la nuit d'hier, plus de 30 personnes ont trouvé la mort et une centaine de blessés dans le camp du Hamas. Le bilan fait état de plus de 1000 morts et près de 5000 blessés selon les autorités palestiniennes. Du côté d'Israël, plus de 1200 personnes tuées, 2700 blessés depuis le début des combats samedi dernier, selon l'armée israélienne. Les Gazaouis continuent de subir les bombardements israéliens, tandis que côté israélien, c'est le choc après la découverte d'un massacre à Kfar Aza près de Sderot. Bienvenue Beloela pour les sports, bienvenue, bonjour.
Bonjour Eda Lotindiko, bonjour à tous.
Basketball, les éliminatoires de la Basketball Africa League Zone 4 se poursuivent à Yaoundé au Cameroun.
Tout à l'heure à 14h, Virunga de la RDC qui a été battu hier par Bangui Sporting Club 84-39 reçoit Lamantin du Tchad, suivi à 17h du match entre FAP du Cameroun et Espoir Basketball Club du Gabon. Ces équipes se battent pour obtenir une place pour l'élite 16. Hier, Espoir Basketball Club du Gabon s'est imposé devant Lamantin du Tchad par forfait.
En province, FC Carnou est une nouvelle équipe de football créée au quartier Zokwezo dans le 6e arrondissement de Boire.
La mise en place du bureau de ce club a eu lieu dimanche dernier lors d'une assemblée générale. Le staff de l'équipe est composé de 11 membres, dont une femme. On fait le point avec Belios Benjamin Abo, notre correspondant à Boire.
Le football club Carnou est créé dans les quartiers Zokwezo et Tropicana dans le 6e arrondissement de Boire. Les dirigeants s'engagent à révolutionner le football pour le développement de la jeunesse. Ahmed Audrey Peningité, président de FC Carnou.
Je suis content d'être désigné président de ce club. J'encourage les jeunes à se joindre à moi pour défendre le quartier pour notre développement. L'opinion sous-estime notre quartier, mais avec cette initiative, nous allons prouver le contraire à nos détracteurs pour promouvoir la paix et la cohabitation pacifique.
Le football pratiqué dans la ville de Bouar reste encore amateur. Benjamin Kaigama, fondateur de FC Carnou, projette inscrire une nouvelle page pour promouvoir cette discipline sportive dans la préfecture de la Nanamambiri.
Notre future génération, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse de demain? Et je me suis dit, je vais accompagner cette jeunesse-là. Je suis très fier.
Henri Gaza, l'une des figures emblématiques du football de Bouar, est désigné entraîneur de FC Carnou. Il promet relever le défi pour atteindre les objectifs fixés par l'équipe dirigeante.
Ma vision, c'est juste pour aider ces jeunes qui veulent vraiment avancer dans leur football. Et j'ai vu que parmi ces jeunes, il y a vraiment des talents, il y a des talents. Et si on les aide, ils vont facilement réussir ou gagner même leur vie. C'est ce qui m'a motivé, les encourager à faire encore de plus.
Ce club, déjà enregistré membre dans la Ligue de football de Bouar, compte livrer son premier match le 3 novembre prochain, date du démarrage du championnat de la Suisse. Souligue de Bouar, Bélios, Benjamin Abou, Bouar, Radio Ndekeluka.
Football ici à Bangui, la troisième journée des éliminatoires de la Souligue de Bégoua démarre aujourd'hui sur le torrent de Kossi.
Dans un instant, Racing Club de Bégoua joue contre Nouvel Horizon, suivi à 16h du match Fini Tongolo, Espérance de Nzako.
C'est ainsi que termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la version en Sango.